Bonjour, je suis Dr. Claude Garceau, interniste à l'ECPQ et bienvenue à ce nouvel épisode d'une série de balados destinés aux professionnels œuvrant en diabète et portant sur la mise à jour de l'ADA en diabète 2024. Nous allons couvrir l'important chapitre 5 portant sur les modifications des habitudes de vie chez le diabétique. Et comme vous le savez, j'avais divisé la discussion du chapitre 5 en trois balados différents. Aujourd'hui, on va aborder ce que préconise l'ADA en 2024 pour l'exercice chez le diabétique. Le tout provient de Standard of Care in Diabetes, publié dans Diabetes Care en janvier 2024, et vous pouvez télécharger de façon très légale le texte en PDF de ce chapitre en utilisant le lien contenu dans la description de ce balado. Mon invité aujourd'hui est Thierry Godette, kinésiologue à l'UCPQ et chargé d'enseignement en médecine et en kinésiologie à l'Université Laval. J'ai découvert Thierry il y a plusieurs années à la suite d'un symposium dans le congrès de l'ADA sur l'exercice, et j'ai réalisé avec stupéfaction qu'il travaillait à l'UCPQ et que nous avions, dans notre milieu, un spécialiste de l'exercice en diabète reconnu. Alors, bonjour Thierry. Alors, peut-être te présenter avant qu'on aborde nos discussions.
Alors, bonjour Dr. Garceau. Merci beaucoup de l'invitation à ce podcast. Une belle occasion pour moi de discuter des lignes directrices là, de l'exercice pour notre clientèle atteinte de diabète, une clientèle que j'affectionne particulièrement pour avoir travaillé dans les dernières 20 années là, à l'UCPQ, au Centre de prévention des maladies cardiaques, le PPMC à l'UCPQ. Je suis aussi le chargé d'enseignement en médecine à l'Université Laval pour former des kinésiologues cliniciens qui seront des bons alliés pour la pratique d'activité physique chez notre clientèle atteinte de diabète.
Alors, bonjour Thierry à nouveau. Quelles sont les recommandations face à la durée de l'exercice dans le diabète de type 1 et de type 2 en 2024 pour l'ADA?
Bien, d'abord, les lignes directrices de l'ADA débutent avec l'avenir. Hein? Donc, on nous donne les lignes directrices chez le jeune. Et chez les jeunes, il faudrait atteindre une recommandation en termes d'activité physique de 60 minutes d'activité de type, on dit aérobie, là, marcher, courir, ce qui provoque un léger essoufflement, une intensité qui est considérée comme moyenne à élevée. Donc, il faut que les jeunes se déplacent avec vigueur, qu'ils fassent aussi trois fois par semaine des activités de renforcement musculaire. Et là, on pense aux jeunes dans une salle de musculation, c'est pas nécessairement le cas, mais sauter, pousser, tirer sur un trapèze, faire des activités où ils doivent marcher sur une poutre, par exemple, pour retrouver de l'équilibre, c'est ce type d'activité qui est suggéré chez les personnes atteinte de diabète de type 1 et 2, mais aussi chez les jeunes dans la population en général. Donc, 60 minutes avec trois fois d'exercice aussi musculaire.
Mais au Québec, est-ce que nos diabétiques font autant d'exercices que préconisés sur l'ADA? Je voudrais avoir un reality check, comme on dit avec toi.
Ben, si on parle encore des jeunes, là, les statistiques chez la personne atteinte de diabète jeune au Québec, si elle est active ou pas, j'ai pas malheureusement la statistique. Par contre, si on regarde le portrait global de nos jeunes au Québec, il y a seulement 40%, en fait, il y a plus que 40% des jeunes qui n'atteignent pas cette norme de 60 minutes d'activité physique par jour. Et si on monte chez les adultes, ce serait près de 60% là, qui sont pas considérés comme actifs, donc qui n'atteignent pas non plus la norme des lignes directrices qu'on pourra voir dans quelques instants. Alors ça considère le travail dans des activités de loisirs et de transport aussi. Donc, il y a un grand chemin à faire. Presque la moitié de notre population qui n'est pas assez active selon ce que recommande l'ADA en termes d'activité physique hebdomadaire.
Donc, on est loin du compte. Alors, dans l'ADA, on précise aussi quelques règles concernant l'exercice aérobique.
Oui, en fait, ce que l'ADA propose, c'est de regarder la personne qu'on a devant nous, d'individualiser d'abord et pas de prescrire la one size fits all à tout le monde. Alors, d'évaluer comme il faut le niveau de base d'activité physique des gens. Donc, quand on parle d'activité physique, c'est pas nécessairement le sport, ça inclut la marche, le travail, de travail à la maison, dans nos tâches quotidiennes. Donc, le niveau d'activité physique habituelle de la personne et d'ensuite adapter nos recommandations en conséquence. Donc, ça nous semble logique, mais il faut partir de là. Et ensuite, ce qu'on propose, c'est au moins d'intégrer des activités qu'on dit aérobie, donc continue, d'au moins 10 minutes par jour. Et ça, ces 10 minutes-là, c'est pour avoir le bénéfice vasculaire surtout, où dès qu'on engendre une circulation un peu plus rapide, là, on peut avoir une vasodilatation des vaisseaux qui peut durer plusieurs heures, même toute une journée, avec seulement 10 minutes d'entraînement continu. Ensuite, bien, pour avoir des bénéfices cardiovasculaires et aussi métaboliques optimaux, rejoindre un objectif de près de 30 minutes par jour chez la plupart des adultes avec un diabète, surtout de type 2, serait une atteinte qui serait le plus favorable, qui démontre les bénéfices les plus importants. Ensuite, Il y a une certaine fréquence à ça. Hein? Lorsqu'on prend une pilule, on a une dose que je viens de vous donner ici, ça serait notre 30 minutes par jour, mais il y a aussi une fréquence intéressante. Et la fréquence pour avoir la demi-vie de la pilule exercice efficace, c'est au moins aux 2 jours. Donc, il faut effectuer notre séance d'exercice et les bénéfices pourraient demeurer jusqu'à 48 heures, mais à 48 heures après, ça tombe à plat. Donc, il faut recommencer la séance d'exercice pour maintenir les bienfaits là, sur la sensibilité à l'insuline. Idéalement, lorsqu'on cumule ce 30 minutes-là, il faudrait atteindre 150 minutes d'exercice par semaine. Et pour les gens qui feraient de l'exercice de façon plus intensive, l'ADA nous dit qu'une personne là, qu'on peut considérer que c'est de la haute intensité, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de courir jusqu'à 10 km à l'heure pour au moins une période de 25 minutes. Alors, si on fait ce type d'exercice-là, à ce moment-là, on peut réduire la durée, donc de passer de 150 minutes d'un exercice modéré où on va avoir un léger essoufflement pendant mon activité, un exercice très intense, à ce moment-là, on peut viser 75 minutes pour des bénéfices équivalent aux 150 minutes plutôt d'intensité moyenne. Donc, plus élevé, un peu moins de temps, mais avec beaucoup plus d'intensité. Alors, les valeurs là, qui sont identifiées ici de 150 minutes d'activité physique aérobie de moyenne intensité par semaine, bien ça, ces recommandations-là viennent d'études prospectives qui démontrent, entre autres, là, une étude à plus grande échelle qu'après 11 ans, il y avait une diminution de la mortalité là, très significative chez les personnes qui faisaient plus haut volume d'exercice aérobie versus ceux qui se contentaient de faire des volumes d'exercice plus faibles. Alors, un effet direct sur la mortalité, mais aussi ces mêmes volumes-là ont été aussi associés à une diminution de l'HbA1c. Là, et l'effet exercice sur le contrôle de l'hémoglobine liquide, on peut s'attendre à une baisse de 0,66% de réduction. Et ça, souvent, on a l'impression qu'il faut atteindre une perte de poids pour y arriver. Mais dans l'étude, c'était une atteinte sans même une perte de poids.
Donc, la valeur pratiquement d'un hypoglycémie orale moyen. Donc, il semble aussi, quelque chose qui est intéressante, et je connais ça un peu parce que j'ai déjà fait du sport à haute intensité quand j'étais plus jeune, mais il semble possible de remplacer des séances d'exercice de moyenne intensité par des séances plus courtes d'intensité élevée. Alors, pouvez-vous me donner des exemples de ce type d'exercice de courte durée, mais d'intensité élevée, qu'on appelle avec l'acronyme HIIT?
Oui, hein? Donc l'exercice avec intensité plus élevée, là, c'est vrai que ça semble associé à une plus grande réduction du poids, entre autres, aussi de l'hémoglobine liquée, puis une amélioration que l'on vise vraiment de la capacité cardio-respiratoire. Tu sais, le VO2 max, la capacité à faire un effort de plus en plus important et surtout d'en récupérer rapidement. Donc, ces exercices de plus haute intensité-là ont été aussi associés à moins de risques chez la clientèle atteinte de diabète de développer de l'insuffisance cardiaque à long terme. Donc, une plus haute capacité nous protège. Donc, un moyen d'y arriver, il faut aller titiller cette capacité supérieure-là pour la développer, pour développer notre capacité. Et une façon de le faire, c'est souvent ce que vous avez mentionné, l'entraînement, la méthode d'entraînement structurée qu'on appelle le HIIT, qui veut dire en anglais le High Intensity Interval Training. Le but de ça, c'est d'alterner une période très intensive suivie d'un repos qu'on peut faire complet, donc à l'arrêt, ou toujours en activité, mais avec une activité plus simple. Par exemple, je vais prendre un vélo stationnaire et pédaler à près de 90-95% de mon maximum, une période donc une intensité très élevée que je peux soutenir seulement que 15 à 30 secondes. Suivant ce 30 secondes-là, je fais une pause du même à peu près de la même durée ou d'une durée double, donc une minute de pause ou 30 secondes de pause. Donc ça, c'est un exemple d'un HIIT training. Donc c'est quand même très structuré. Je dois faire cette période de haute intensité-là suivie du repos à plusieurs reprises. La durée des périodes intensives peut varier, là, si brève, comme j'ai dit, de 15 secondes à plus longue jusqu'à 4 minutes. À 4 minutes, ce sera bien sûr un pourcentage de notre maximum plus faible. Donc, par exemple, si je fais un intervalle de 4 minutes, ce sera plutôt à 80% du maximum. Alors, c'est sûr que ça se fait très bien ou mieux sur des ergomètres, hein, comme un vélo stationnaire ou un tapis roulant, où je peux définir la vitesse et la pente, faire un arrêt, reprendre à cette charge-là. Mais ça peut se faire aussi de façon un peu moins structurée pour des bénéfices presque équivalents avec en jouant avec l'intensité de notre entraînement ou de nos promenades. Par exemple, mettre plus d'escaliers sur un parcours, mettre des pentes. Alors, tout ce qui titillera finalement une capacité supérieure aura son bénéfice à augmenter la capacité et aller dans le même sens que les études qui nous démontrent qu'avec une plus grande capacité, bien, il y a une amélioration globale de la survie et la santé.
Quelle est l'influence de ces fameuses séances HIIT là, qui vont être peut-être favorisées par les plus jeunes sur la glycémie?
Bien, je prends la balle au bon quand vous dites que c'est chez les plus jeunes. On démontre en fait là, que même chez les plus âgés, même chez les très malades comme en insuffisance cardiaque, ce serait à privilégier parce que c'est justement ces personnes-là qui soutiennent peut-être moins longtemps au niveau psychologique une période de plus haute intensité. Donc, le bénéfice, c'est de faire un peu d'intensité et récupérer tout de suite sans avoir à soutenir un effort très violent. Mais de faire un exercice comme ça de plus haute intensité, bien, le corps a besoin, pour réussir à faire cette intensité-là, bon, d'adrénaline, il produit un peu plus de déchets comme le lactate. Et cette adrénaline-là va avoir en fait l'impact de mobiliser les ressources d'énergie comme le glucose par exemple, donc de faire un peu plus de glycolyse au niveau hépatique et de la libération de glucose pendant l'effort. Alors pour maintenir l'effort à un si haut niveau, j'ai besoin de glucose et le glucose est donc recruté du foie vers la circulation. Alors à l'arrêt de l'exercice, lorsque les muscles cessent de prendre ce haut volume de glucose parce qu'on a on fait de l'exercice à haute intensité. Lorsque l'exercice s'arrête, la glycémie peut rester parfois plus élevée et plus élevée pendant plusieurs heures. Et on le remarque de façon plus intensive là, chez les personnes atteintes de diabète de type 1 qui, à ce moment-là, quand ils arrêtent, ils n'ont pas une petite sécrétion d'insuline qui pourrait endogène, là, qui pourrait les aider à revenir à une glycémie plus normale. Alors, la glycémie peut rester plus élevée pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures suivant un exercice qu'on dit plus intensif, mais qui peut être aussi plus musculaire, plus statique, comme de l'escalade, par exemple, un mouvement fixe. Alors, c'est associé à des glycémies qui vont être un peu plus hautes. Et donc, l'ADA nous dit ce type d'exercice-là peut favoriser quand même des glycémies un peu plus élevées suivant un effort.
Maintenant, si on vient au PPMC, on voit que les gens font de la musculation, s'entraînent et on avait un peu défavorisé ce type d'exercice par le passé. Mais que nous recommande l'ADA face aux exercices de renforcement musculaire? Puis qu'est-ce que vous conseillez à vos patients diabétiques dans la vraie vie?
Alors, l'ADA nous suggère 2 à 3 séances de musculation comprenant des grands groupes d'exercices musculaires, surtout de grands groupes musculaires. L'idée, là, c'est que le territoire musculaire est un territoire d'entreposage, le territoire d'entreposage du glucose sous forme de glycogène principal du corps. Alors, de venir stimuler la masse musculaire à se développer, on développe à ce moment-là la possibilité d'entreposer une plus grande quantité de glucose, mais aussi un muscle qui sera plus fréquemment utilisé à de plus hautes intensités, vient avoir un peu plus de transporteurs de glucose en surface du muscle. Alors, un muscle qui va être utilisé davantage pour faire de la clairance du glucose suivant, par exemple, un repas plus rapidement. Alors, l'idée, c'est pas d'aller nécessairement bouger beaucoup le petit doigt qui a une faible masse musculaire. Ça fera pas bouger beaucoup votre glycémie. Mais l'idée ici, c'est qu'en touchant des grandes masses musculaires, il y a un effet plus intéressant sur la baisse de la glycémie. Et ce qu'on constate dans la recommandation, ce n'est pas juste du mouvement musculaire, mais c'est vraiment d'amener une surcharge pour développer le muscle en hypertrophie. Donc, comme je le disais, grossir l'espace d'entreposage, mais rendre aussi le type de fibre musculaire qui a une tendance à faire un peu plus d'entreposage. Alors, on vise l'hypertrophie même chez les clientèles plus âgées qui seraient à risque de sarcopénie dans le futur. Alors, la progression doit être bonne, par contre, parce que si on commence avec des hautes intensités, le risque de blessure est toujours présent. Donc, on commence pas nécessairement avec des très hautes charges, mais on viserait là des forces assez importantes qui, par exemple, vont épuiser la cuisse après 10 répétitions et qu'il faudrait que je prenne une pause. Alors, vraiment, un grand aspect pratique à la musculation.
Donc, la fonte, c'est pas seulement pour l'esthétisme, ça peut aider aussi même nos patients diabétiques. Mais dans la vie courante, est-ce qu'il est possible d'améliorer notre santé physique par de petits gestes et de petits changements dans notre façon de vivre et de travailler?
En effet, puis dans le texte de l'ADA, là, je pense que c'est vraiment mis de l'avant. Depuis quelques années, dans les recommandations, on le voit aussi particulièrement chez la personne atteinte de diabète, il faudrait éviter des périodes assises longtemps. Et on est souvent devant un écran de longues périodes et le temps visé, ce serait qu'aux 30 minutes même, je me lève pour contracter mes muscles. Alors, oublions pas que seulement après quelques contractions musculaires, par exemple des mollets ou juste en position debout, bien, ça stimule les muscles à justement recruter ces transporteurs de glucose-là. Ça fait une translocation membranaire qui peuvent accepter plus de glucose. Donc, ça prend pas nécessairement une marche de 30 minutes pour provoquer cet effet-là. Et seulement que des petits déplacements comme ça, réguliers dans notre journée, va nous permettre d'absorber une plus grande quantité de glucose. Alors ça a été quand même assez bien démontré que seulement se lever aux 30 minutes, contracter un peu nos mollets, se rasseoir, c'est important. Une autre chose qui peut être importante, c'est le moment où on le fait aussi, particulièrement en période postprandiale, donc après notre repas, de bouger à ces moments-là clés où la glycémie est la plus élevée, surtout chez la personne atteinte de type 2, ce serait le moment idéal. Alors les moments là, et là avec la glycémie en continu, la surveillance de la glycémie en continu, on le voit plus chez les gens hein, qui remarquent que leur glycémie monte à certains moments. Bien, ces périodes-là où je suis en pleine montée, d'utiliser l'exercice pour venir diminuer la glycémie à ces moments clés-là, ça c'est quelque chose qui peut être très pertinent à démontrer et à enseigner. Et puis tout à l'heure, on parlait des jeunes, bien, diminuer le temps d'écran. Un jeune, là, on lui retire l'écran, après quelques minutes sans rien faire dans ses pensées, il va se mettre à bouger au lieu d'être hypnotisé devant un écran. Alors ça, c'est des gestes simples, se lever régulièrement, peut-être planifier notre séance d'exercice dans un moment où la glycémie est plutôt haute ou en montée et d'éviter les écrans réguliers.
Notre population vieillit beaucoup au Québec et entre autres près de l'hôpital Laval, le CPQ, on a une structure de population parmi les plus vieilles au Canada. Exemple, le code postal du quartier Saint-Sacrement contient une population gériatrique qui est en croissance vraiment phénoménale. Et donc, dans la population gériatrique diabétique, il semble important pour l'ADRA de favoriser des exercices d'activité physique qui améliorent aussi l'équilibre et la flexibilité.
Oui, hein, le risque de chute est particulièrement important hein, chez les personnes plus âgées. Il y a des muscles qui semblent être plus atteints que d'autres. En distal, je pense par exemple au tibial antérieur, là, celui qui va relever les orteils. Un muscle qui est particulièrement atteint chez les chuteurs, alors les personnes qui vont faire des chutes plus régulières. Alors, juste de, par exemple, en écoutant la télévision, relever les orteils vers les genoux à plusieurs reprises pour renforcer ce muscle-là, le releveur des orteils peut être un exercice qui favorise l'équilibre. Aussi, les moyens fessiers avec des petits pas latéraux qui vont aussi venir ajouter une composante qui va faire que la personne risque moins de chuter dans le futur en gardant cette mobilisation-là, mais aussi des déplacements dans des plans pas nécessairement usuels, comme vers l'arrière ou sur les côtés. Donc ça, c'est mis de l'avant chez les personnes plus âgées, de réfléchir, est-ce qu'on met dans notre programme d'entraînement aussi des exercices qui pourront jouer sur cette composante d'équilibre. La flexibilité aussi, lorsqu'on vieillit, il y a certains gestes qu'on fait avec moins d'amplitude. On fait des gestes aussi moins puissants, donc moins avec la vie, moins vite. Alors ça, de réintroduire de l'amplitude de mouvement chez les personnes, on a parlé tout à l'heure de musculation, mais on peut faire aussi de grands mouvements, d'étirements. On n'est pas nécessairement dans la flexibilité au début obligé de maintenir une position résistée là, pendant plusieurs secondes où ça tire ou ça fait mal, mais plutôt d'aller tranquillement avec de plus grandes amplitudes, par exemple de pousser les mains en avant vers l'arrière, de bouger la jambe avant en arrière avec un balancier, avec une plus grande amplitude. C'est ce genre d'exercice-là qui serait privilégié aussi dans une clientèle un peu plus âgée.
Maintenant, on va rester dans la population âgée. Peut-être quelques mots pour le patient diabétique frêle et l'exercice physique.
Oui, bien, le patient plus vieux avec peut-être la sarcopénie, une faible capacité fonctionnelle et une peur aussi de chuter qui va limiter ses activités de la vie quotidienne, bien, un patient comme ça, si on lui demande de faire beaucoup d'exercices de type aérobie, de sortir marcher à l'extérieur de chez lui, ça peut être des éléments qui sont un peu épeurants, cet environnement extérieur. Alors, ce qui fonctionne mieux chez cette clientèle-là, c'est vraiment de regarder les gestes fonctionnels et d'introduire des mouvements, par exemple, de musculation qui sont associés à des gestes qu'ils peuvent faire dans la vie de tous les jours et introduire progressivement de la surcharge. Entre autres, dans ce type de clientèle, il y a des études qui démontrent que les exercices musculaires avec bande élastique, là, une résistance constante, favorisent vraiment de belles améliorations avec cette clientèle plus frêle.
Alors, voici ce qui termine cette première partie sur l'exercice. Dans la deuxième partie, qui sera beaucoup plus courte, nous allons aborder la prescription de l'exercice, l'évaluation et d'autres petits sujets d'intérêt. Alors, à bientôt!